Nous sommes ici au Parc des Bastions, en compagnie de Caltrina et de Deda. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous faites tous les deux partie de l'association des étudiantes et des étudiants albanaises et albanais de Genève, l'AEAG.
C'est exact.
Et en collaboration avec l'Université populaire albanaise, l'UPA, eh bien, vous organisez une exposition sur la guerre du Kosovo, dont on va parler maintenant de cette exposition, à l'Université de Genève, précisément à Unimail, qui commencera demain, le 30 avril, jusqu'au 4 mai. Accompagnera cette exposition une table ronde qui aura lieu, si je ne me trompe pas, justement demain soir. On va commencer tout de suite par peut-être introduire le sujet avec la citation que vous citez vous-même, qui est la suivante, de feu Winston Churchill. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Alors voilà, on va revenir sur cette guerre du Kosovo. Mais peut-être d'abord, devrions-nous présenter un petit peu et placer sur une carte le Kosovo. Qu'est-ce qui veut commencer par nous décrire un petit peu ce pays?
Alors le Kosovo, c'est un petit pays de 2 millions d'habitants qui est situé au cœur des Balkans, entre l'Albanie, la Serbie, le Monténégro et la Macédoine. Et ouais, c'est un pays récent.
Mmh.
On a fêté 10 ans d'indépendance il n'y a pas longtemps, l'année passée. Ah ouais, faut que je rapproche.
Voilà.
On n'entend pas trop bien. Et ouais, c'est un pays sympa.
Et la superficie du pays, est-ce que tu la connais? J'ai regardé, c'est à peu près 10 000 km² en gros. En gros, c'est la Suisse romande. La guerre du Kosovo eut lieu du 6 mars 1998 au 10 juin 1999.
La répression a débuté bien avant.
Mmh.
Nos propres familles ont dû fuir parce que ils avaient plus de travail, qu'il y avait vraiment la police serbe faisait une répression au niveau du peuple, etc., etc. Donc, ce qui a amené à ce 6 mars où ça a éclaté, notamment en mars 1998. Il y a eu le massacre de la famille d'Ademir Charlie.
Mmh.
Donc c'est un petit peu le symbole du début de la lutte entre les Albanais du Kosovo contre les forces serbes.
Oui, voilà, parce que le principal adversaire, c'est le voisin serbe qui a encore, si j'ai bien compris, des velléités de conquête de ce territoire.
Ouais, en fait, c'était surtout des nationalistes serbes qui étaient responsables du conflit. Et une personne en particulier, Slobodan Milosevic.
Qui a supprimé l'autonomie du Kosovo.
Voilà, à l'époque en 89, et c'est à ce moment-là.
Oui.
D'accord.
Ça a commencé vraiment. Parce qu'avant, en 81, en fait, c'est là que les mouvements indépendantistes dans la Yougoslavie a commencé. En fait, ça a commencé au Kosovo. C'est des manifs étudiantes qui demandaient plus d'autonomie, tout ça. Au début, c'était pas vraiment une question d'indépendance, mais c'était plus d'autonomie et
de droits aussi
parce que tous les investissements étaient concentrés à Belgrade et même l'accès aux universités, tout ça était plus compliqué pour les personnes albanaises que pour les personnes slavophone.
Ouais, d'accord. Oui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu des paliers. La résistance n'a pas immédiatement été une résistance armée. Elle a d'abord été pacifiste.
Ouais.
Et puis, effectivement, à un moment donné, à force d'avoir cette répression sanglante, eh bien, on sait qu'il y a eu cette émanation l'UCK, qui était dont on peut dire que c'est une armée de guérilla, une armée de libération, d'une certaine manière.
Oui, mais ça a un peu suivi, en fait, les mouvements qu'il y a eu d'abord en... Quand je parle de conflit armé, il faut dire qu'il y a eu d'abord les Oustachis en Croatie, tout ça. Ça a suivi un peu. Ouais. Il y avait des mouvements de part et d'autre de la Yougoslavie, en fait.
D'accord. Alors, pour vous, il était question, au travers de cette exposition, alors on va le dire, c'est une expo de photos, des photos empruntées à l'agence
Magnum.
Voilà, agence Magnum, dont on connaît l'expertise en termes de reportage photos, notamment de photos de guerre. Comment est-ce que vous avez décelé, trouvé et eu l'idée de faire cette exposition-là avec des photos justement de l'agence Magnum?
Alors, c'était un pur hasard. C'est passé par les réseaux sociaux. J'avais un ami à Paris qui a montré au sein du ministère de la Défense des photos de Magnum qui représentaient en fait des réfugiés de la guerre du Kosovo. Et dans le contexte actuel, nous sommes c'est l'année des 20 ans de la fin de la guerre, nous avons discuté avec le comité qu'il serait intéressant d'ouvrir une exposition pour parler du conflit, mais également de la douleur humaine qui a eu lieu il y a 20 ans. Pourquoi cette exposition ? Parce que, à travers les photos, c'est ce qui représente le mieux cette souffrance. Et on pense que c'est important de parler des conflits du passé, parce que actuellement même, on a une Europe qui est vacillante. Il y a des montées de populisme. La paix est quelque chose d'acquis dans nos esprits, mais nous qui venons d'un pays qui avons souffert de la guerre, on sait que le prix de la paix, ça coûte. Et c'est quelque chose d'important. Donc peut-être en discuter avec les autres, c'est aussi renforcer le sentiment qu'il faut se battre pour la paix. Mais pas que pour une paix locale, mais pour une paix universelle au final.
Mmh. On disait tout à l'heure, ce sont des conflits relativement méconnus. Qu'en pensez-vous ?
Non, mais c'est clairement méconnu. Et même pour nous, en fait. Même pour... je parle de ma personne. Hein, parce que moi, j'étais jeune. Vraiment très jeune, et j'ai pas le souvenir des conflits, tout ça, j'y étais pas, et mes parents me disaient toujours, ah oui, il y a la guerre, il y a la famille qui est au pays, tout ça, et pour moi c'était un peu virtuel, je m'imaginais les choses, et là voir quand j'ai grandi, je suis allé chercher les images, tout ça, et ça m'aide à plus comprendre et à voir vraiment la réalité, et de mettre un aspect visuel sur des récits qu'on m'a racontés, et des trucs comme ça. Et je pense que c'est important, et c'est là que les images sont utiles. C'est aussi pour se représenter les récits et les faits qui sont importants, parce qu'on a du mal à se représenter les choses et se dire qu'elles ont vraiment existé.
Et la jeunesse a un devoir aussi de pousser à la réflexion sur les conflits passés et d'apprendre aussi de notre histoire pour justement qu'on ne répète pas.
Ouais.
Qu'on ne répète pas ce qui a
été. Absolument. Ouais. Comme on l'a dit, là vous le citez d'emblée, hein, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Donc on voit bien le focus sur lequel vous voulez vous annoncer l'exposition. Vous-même, vous êtes. Quel lien avez-vous encore avec le pays ? Vous y retournez chaque année ? Vous y avez encore de la famille ?
Bon, moi j'ai une famille élargie, du coup je prends à cœur à aller leur rendre visite. Et ouais, j'essaie d'y aller tous les ans. Et aussi, il y a un truc qui, vu qu'on avait fui le pays, j'avais pas pu retourner au pays pendant plus de 10 ans. Et du coup, je rattrape un peu le temps perdu avec la famille, tout ça. Genre, quand je suis retourné après des années d'exil, je suis retourné au pays, on m'a dit, lui, c'est ton cousin, tout ça. Et c'était un peu bizarre au début, mais maintenant, ça me fait beaucoup plaisir de rendre visite. Et même, j'aime bien mon pays, l'atmosphère. C'est vraiment une bonne ambiance et j'aime bien.
Alors moi aussi, j'y retourne chaque année. J'ai ma famille qui est là-bas. Je pense que c'est important de garder aussi un lien avec les origines. Ça fait partie un peu de notre équilibre, de notre identité au final. Donc oui, j'y vais chaque année.
Ok. Alors quand vous y retournez, quels sont les récits qui vous sont faits de la guerre 20 ans après ? Est-ce qu'on sent qu'il y a une page qui est tournée ou justement pas ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont là, toujours en suspension ?
Ouais.
Chacun votre tour.
Ouais. je sais qu'en France, ils avaient fait beaucoup d'efforts après la guerre avec l'Allemagne et tout. Il y avait des accords entre le gouvernement allemand et le gouvernement français. Et j'ai l'impression qu'au pays, c'est toujours en suspens. Et il y a ce problème de reconnaissance du pays, de l'indépendance, que la Serbie nous refuse et qui fait pression auprès d'autres États. Il y a même eu des retraits de reconnaissance d'indépendance,
ouais.
Ce qui est vraiment étrange. Mais bon, tout ça, c'est des manœuvres politiques qui nous dépassent. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'il y ait encore un peu. Que ce soit pas clos. Qu'il y ait pas. Il y a eu une paix, mais pour moi, elle est pas
incomplète, encore. Incomplète, peut-être ?
Ouais, elle est incomplète, je trouve. Et je trouve ça dommage encore qu'il y ait des conflits, même entre les personnes. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec les Serbes et je vois pas pourquoi je devrais en avoir. Et même les Serbes ne devraient pas avoir de problème avec nous. Enfin, tout ça, ça devrait appartenir au passé. On devrait prendre les leçons du passé et d'essayer de construire un avenir pérenne entre les peuples et entre les États aussi. Et ça, je pense que c'est les efforts qui doivent être faits au niveau politique et au niveau individuel aussi.
Très bien, merci beaucoup. Claire, tu veux ajouter, commenter?
Oui. Moi-même, j'ai ma famille qui a souffert de la guerre. J'ai eu mon oncle qui a été torturé pendant des mois dans une prison. J'ai une amie, son père a été décapité lors des massacres de Lechak. Donc oui, c'est des histoires qui sont très douloureuses et qui sont toujours présentes. Et comme disait Kutim, il y a un problème de reconnaissance, bien entendu au niveau politique, mais aussi au niveau de la douleur causée. On cite 20 000 femmes violées au Kosovo durant la guerre. Aucun procès n'a été fait et il n'y a pas... Voilà, on a un sentiment d'injustice de, peut-être qui est toujours là et qui fait que la page n'est pas tournée. Même si les gens continuent à vivre, c'est même le processus de résilience qu'on accepte cette réalité, qu'on continue, mais voilà, il y a quelque chose à l'intérieur qui n'arrive pas à se fermer.
Un sentiment d'inassouvi, d'inabouti, est-ce que c'est de cet ordre-là ?
Oui, parce qu'en Allemagne, ils ont reconnu les crimes du gouvernement, ils ont reconnu leur implication, tout ça. Alors qu'en Serbie, j'ai l'impression qu'ils ne reconnaissent pas tous les torts qu'ils ont faits. Peut-être que c'est aussi, ils disent que c'est la faute à l'ancien gouvernement, tout ça, mais ça pose la question de la responsabilité. Est-ce que la Serbie est responsable aujourd'hui de ce qu'ils ont fait pendant l'époque de Yougoslavie ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a une responsabilité, mais juste le fait d'admettre les faits, je pense que ce sera un grand pas en avant et ça permettrait à beaucoup de personnes de se reconstruire et d'accepter ce qui leur est arrivé, qu'on reconnaisse aux victimes leur statut de victime.
Et ça, peu importe le côté au final, hein, les victimes, oui. Parce que nous, dans cette exposition, c'est la guerre du Kosovo, c'est pas la guerre des Kosovars. Hein. Donc on a des photos qui représentent des Albanais, on a des photos qui représentent des Serbes, on a des photos qui représentent des Roms. Donc on a un regard très neutre sur le conflit et le choix également des photographes d'origine étrangère a été fait en sorte qu'ils apportent un regard neutre sur la situation et le conflit.
D'accord. Concernant cette table ronde qui aura lieu le premier jour, donc demain, voilà, de quoi va-t-elle traiter ?
Alors, la table ronde sera divisée en trois parties. Une première partie qui sera dédiée à l'image. L'image, l'importance de l'image au niveau de l'information, l'importance de l'image au niveau de la mobilisation des autres pays dans un conflit, hein, parce que même si le focus est au niveau de la guerre du Kosovo, cette table ronde est, on va dire, est un rôle beaucoup plus important. Dans un deuxième temps, on va également discuter de la résilience, de la reconstruction de l'identité à travers les photos du passé. Et dans un troisième temps, on aura l'avis d'un journaliste qui a vécu à l'intérieur et à l'extérieur dans la diaspora la guerre et cette dualité à travers les images, les photos.
D'accord.
C'est un peu les grandes lignes.
Oui, oui. Donc, on va le dire, c'est demain, donc mardi 30 mai.
Oui.
Donc, à Unimail.
Oui.
À quelle heure ?
À 19h.
À 19h.
Ouais, la table ronde, c'est à 19h en salle
MR290.
Ouais. D'accord.
Au rez-de-chaussée.
Ok. Et puis.
La salle jaune pour les habitués d'Unimail.
Dites-moi, des personnes interviendront, vous avez dit, hein. Donc, notamment pour la troisième partie.
Oui, alors. Il y aura Willy Luyenberger, l'ancien président des Verts, qui est également le fondateur de l'Université populaire albanaise, qui était une association pour l'accueil des réfugiés kosovars. Il y aura Monique Ekman, qui est membre d'un groupe qui travaille sur la mémoire de l'Holocauste. Il y aura également Sally Kaboshi, qui vient de Paris. C'est un journaliste qui est le premier journaliste accrédité du Kosovo, qui a beaucoup travaillé dans l'information en Occident sur le conflit du Kosovo. Et dernièrement, je prendrai la parole pour représenter l'Association des étudiants albanais en présentant le projet.
Très bien. Les photos, donc, elles sont, elles, exposées dans le hall du NIMAI.
Dans le hall, oui.
Donc les personnes peuvent déambuler au travers des photos toute la journée. Au
Exactement, voilà. Oui. Donc il y a comme photographe Cristina Garcia-Rodero, Paolo Pellegrin, Alex Maioli, Attar Abbas. Et est-ce que j'en oublie un ? Possible, oui.
D'accord. Ouais. Mais tout cela, de toute façon, voilà. Sera indiqué à l'exposition. Exactement. Donc, du coup, on invite les personnes à s'y rendre et puis à déambuler dans ces photos. Donc, la table ronde, c'est que mardi. Et après, il y a l'exposition, elle dure toute la semaine.
C'est
Exactement,
ça.
Exactement,
oui. D'accord. Les heures d'ouverture, c'est l'ouverture d'université MAI. Donc,
voilà. 8h-22h.
Voilà, exactement, du matin au soir. Très bien. Comment s'est passée la collaboration avec l'Université populaire albanaise pour cette exposition ?
Elle s'est très bien passée, elle nous a soutenus parce que l'université, on a demandé leur aide en fait, étant donné qu'eux ils ont déjà fait un travail sur les mémoires concernant en fait BESA, le code d'honneur BESA. Mm-hmm. Il s'agissait d'une exposition photo sur les Albanais qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, avaient sauvé et protégé 2000 juifs au nom du code d'honneur BESA. Donc c'est pour cette raison qu'on a fait appel à eux, étant donné qu'ils avaient cette expérience là ils nous ont également aidé financièrement par rapport au coût du projet.
Oui. Et ouais, très bien, très bien. Et quel est le regard que l'on porte sur vous de la part justement des Kosovars plus âgés, des aînés, de ceux qui ont peut-être directement vécu la guerre? Est-ce que c'est vu d'un bon œil? Est-ce que le travail que vous faites sur justement la mémoire et le fait d'échapper à un cours de l'histoire d'une certaine manière, en tout cas à une reproduction systématique des événements, est-ce que ça parle aux personnes?
Ouais, on a eu que des retours positifs. Okay. Pour l'instant, vraiment, ça a touché beaucoup de monde. Il y a des personnes qui veulent venir de Belgique, de Zurich, de Lausanne pour assister à la table ronde et voir l'exposition. Ça a vraiment un impact émotionnel fort sur les personnes qui ont vécu la guerre ou même les personnes jeunes comme moi, comme je vous disais, qui n'ont pas vécu la guerre directement, mais qui ont une attache émotionnelle à ce conflit-là.
Bien sûr, ouais, et dont les conséquences évidemment débordent largement le.
Et les anciennes personnes, toutes celles qui étaient en exil, qui travaillaient dans les cafés, qui regardaient Euronews toute la journée pour voir. S'il se passait quelque chose chez eux, je pense que ça les touche et je pense que ce ne sera pas limité au monde universitaire et qu'on aura une audience bien plus large.
Oui, totalement, et ça démontre aussi le besoin qu'on reconnaisse au final cette souffrance. Nous sommes arrivés dans une terre d'accueil. La plupart c'était de manière déchirante qu'ils sont venus en Suisse ou à l'étranger, et il y a peut-être aussi un besoin de qu'on reconnaisse leur douleur qui est là et qui sommeille depuis très longtemps. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment un vrai engouement pour cette exposition, hein. Notre événement Facebook, on n'attendait pas à une telle participation.
Mais c'est génial, c'est de très très bonnes nouvelles. Alors justement, les sites internet, donc la manière dont les gens peuvent s'informer à ce propos, c'est la page Facebook surtout ?
La page Facebook, également notre site web www.aege.ch et
Instagram pour les jeunes.
Instagram aussi.
Et puis la page Facebook, Instagram, comment est-ce qu'on trouve ?
Le groupe, c'est le groupe, Association des étudiants albanais. Étudiants-étudiantes albanaises de Genève.
D'accord.
Une simple recherche sur Google et on trouve.
Voilà, exactement. Voilà. Est-ce que vous... Donc, on peut d'ores et déjà dire que cette expo va être un succès.
On attend de voir, mais
on espère.
En tout cas, voilà, le propos qui est tenu, enfin, tous les ingrédients sont réunis, je veux dire.
Voilà, ouais. Et je tiens juste à préciser que le but, c'est vraiment d'informer le public, c'est pas un but de victimisation. C'est une exposition qui englobe tout le conflit pour apporter des éléments et pousser à la réflexion chacun et chaque personne qui verra cette exposition.
Mmh. Est-ce que vous envisagez, pourquoi pas, que cette exposition soit voyage, soit nomade ?
Oui, c'était un peu l'idée de base. Le fait est que nous avons un contrat avec Magnum qui est sur un lieu. Il est possible de demander les droits d'auteur par la suite, mais pour des lieux différents. Donc, toute personne qui sera intéressée à utiliser cette exposition, nous avons déjà le matériel. Ils devront demander l'accord à Magnum.
Cet accord implique quand même une contrepartie financière.
Exactement.
Ouais. D'accord. Dont on sait à peu près les montants. Enfin, je dis ça pour les personnes qui écouteraient et qui auront envie de vous.
Alors, on va pas s'avancer au niveau.
D'accord.
Ouais, parce ça que reste c'est confidentiel.
C'est Magnum qui fait au cas par cas.
Au cas par cas, d'accord.
Voilà, donc on va pas.
Oui, bien sûr. C'est comme j'y connais rien.
Magnum, mais c'est quand même des coûts qui sont assez importants, oui. D'accord.
Pour des associations étudiantes.
Pour des associations étudiantes, oui.
D'accord. Mais on peut dire que peut-on lancer un appel en disant voilà, les personnes intéressées pourraient vous contacter vous déjà pour prendre quelques informations
pour prendre les photos qu'on a lancées en impression. On est disposé à les fournir aux personnes qui seraient intéressées. La seule question c'est la question des droits d'auteur. C'est la seule formalité en fait.
Et puis du côté de l'Université de Genève, comment est-ce que ça a été perçu ça aussi ?
Ça a été très bien accueilli. Ouais. On a fait une demande au rectorat. Nous avons bien expliqué et défini quels étaient les motifs et le pourquoi de cette exposition. Nous avons eu l'accord de l'université. Donc tout s'est bien passé en fait. D'accord. Ils ont été très soutenants par rapport à ce projet.
Il y a des étudiants et des étudiantes en sociologie de l'Université de Genève qui sont allés faire un voyage d'études au Kosovo il y a un ou deux mois il me semble. Et là, il y a un fort intérêt de leur faculté et de l'association facultaire.
Mais ouais. Justement, j'avais une question concernant là-bas. Est-ce que par hasard, vous auriez des relais ou des collaborations avec, je ne sais pas, une université à Pristina ou quoi ? Parce que ce serait sympa aussi d'avoir leur regard par rapport à ce que vous faites ici.
En fait, on n'a pas d'accord directement avec des universités, mais on est en contact avec les étudiants.
Okay.
Et étudiante, on avait fait un voyage d'études en Albanie l'année dernière. Et on s'était rendu dans l'université polytechnique de Tirana.
Ouais.
On avait rencontré les étudiantes et étudiants et c'est très bien passé. Et cette année, ils ont manifesté pour les droits étudiants parce que ils voulaient une certaine réforme de l'université en Albanie. Et nous leur avons apporté leur soutien immédiatement. On a fait des communiqués là-dessus et on est en contact avec eux.
C'est intéressant dans un deuxième temps justement que ce soit un tremplin cette exposition pour voir aussi leur point de vue parce que eux-mêmes, de ce que nous ont rapporté les étudiants de sociologie, ils avaient également fait des activités par rapport aux 20 ans de la guerre avec des maquettes, etc., etc.
Ce serait intéressant d'avoir même des échanges, qui sait.
Nous, on a des échanges avec aussi les associations étudiantes albanaises, mais d'autres universités de Suisse,
okay.
Comme Lausanne, Zurich, Lucerne, mais aussi en France et en Belgique, à Lyon et à Bruxelles, il me semble. Et on est en contact.
D'accord.
Toujours.
Y a-t-il comme ça des photos Comment les avez-vous choisis ? Et puis y a-t-il des photos comme ça qui, pour vous, personnellement, j'ai envie de vous demander, sont plus emblématiques que d'autres ou vous touchent un peu plus que d'autres ?
Il y a des centaines de photos
c'est
la banque de données.
C'est pour ça que j'imagine que le choix, ça a dû être...
Ça a été difficile de choisir ces photos parce que de un, on était pris sous l'émotion. Voir des photos déchirantes, de savoir que peut-être des membres de notre famille ont vécu ça, etc., etc. Au final, les photos, elles ont été choisies. On a essayé un peu d'aborder certains thèmes. On n'a pas obtenu l'accord de toutes les photos. Hein. Donc, c'est le photographe qui disait oui ou non, vous devez changer cette photo. Il y a d'autres sujets qu'on aurait souhaité par exemple, montrer. On n'a pas pu le montrer parce que le photographe a refusé, par exemple. Mais c'est des photos concernant les camps de réfugiés, des photos concernant les victimes, les maisons brûlées, plusieurs thèmes, mais vous verrez.
Ouais, ouais, on découvrira ça. Combien il y en a-t-elle qui sont exposées, qui seront exposées à l'image? 26 photos, d'accord. Donc c'est un joli parcours à faire avec des explications.
Alors la légende est seulement la légende du photographe. Donc c'est très neutre.
C'est
et
factuel.
Ensuite, ouais. On aura deux roll-ups plutôt informatifs, okay, avec des grandes lignes sur les faits. Tous les écrits sont tirés de rapports internationaux. Il n'y a rien au niveau de, qui pourrait porter un peu à l'interprétatif.
Ouais.
Tout reste factuel. Il y a les citations et les sources qui sont écrites. Et il y aura aussi un roll-up avec des témoignages de réfugiés sur leur vécu.
Très bien. Merci beaucoup. J'ai encore une ou deux petites questions, si on a encore 2-3 minutes.
Ouais. Ouais, bien sûr.
Vous, comment, de quelle manière est-ce que vous pensez... comment est-ce que vous voyez l'avenir au Kosovo? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il y a une stabilité qui est en train d'être recouvrée? Est-ce que vous sentez qu'effectivement... Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la mémoire. Alors la mémoire, effectivement, elle est fondamentale. Puis après, il y a les faits, il y a comment les choses s'organisent dans le pays, comment est-ce que les gens fonctionnent ou pas ensemble. Là, s'il fallait en quelques mots... penser l'avenir du Kosovo, parce que c'est vrai que tout à l'heure, ce que vous avez dit par rapport à la reconnaissance, alors on sait que le Kosovo n'est pas reconnu par tous les pays, mais par un certain nombre tout de même, mais qu'on a eu cet exemple de, je crois, même un ou deux pays qui ont retiré leur reconnaissance, ouais, ce qui est assez inédit, il me semble. Alors, vous, comment vous voyez l'avenir, en fait?
Moi, je suis optimiste,
ouais,
vraiment. À chaque fois que j'y retourne, c'est de mieux en mieux, tout va pour le mieux. Il y a des choses à faire encore, mais je suis super optimiste. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes gens, des activistes, des artistes. C'est assez dynamique. Ça bouge beaucoup au Kosovo. Même l'économie, ça bouge énormément. Ça se développe, mais très rapidement. Et je suis très optimiste. Et j'ai juste un souhait. C'est que... comment dire ? Qui est encore une certaine exception culturelle kosovare et albanaise, et que qu'on ne soit pas vraiment comme si on allait en Amérique, en France, en Italie. J'ai pas envie qu'il y ait une sorte de globalisation trop importante du Kosovo. J'aimerais qu'il y ait encore une certaine identité culturelle qui existe encore, notamment avec la musique, tout ça. Et j'aimerais garder ça un petit peu.
Et
certaines traditions. Mais je suis optimiste pour le Kosovo et je pense que ça ira bien.
Parce que selon toi, cette identité, elle est un petit peu remise en question ou
Non, elle n'est pas remise en question au Kosovo. Elle est remise en question partout parce que c'est Netflix qui impose la norme.
Ouais,
je veux dire,
d'accord,
même au Japon, tout ça, y a une sorte d'harmonisation de la société. L'anglais qui prend une place de plus importante. Moi, j'ai envie qu'il y ait encore quelques petites traditions qui ne se perdent pas. C'est des petites choses, hein, c'est anecdotique. Mais...
bah, peut-être que c'est justement dans ces signes-là que...
ouais, c'est là où je trouve qu'il y a un charme.
Ouais.
Et je pense que le Kosovo a intérêt à garder ce charme, ces valeurs d'hospitalité, d'accueil qu'on a toujours eues et j'espère qu'on aura toujours.
Katrina, tu confirmes?
Oui, je pense qu'il faut être optimiste, mais aussi pragmatique. Il y a des soucis au Kosovo, il y a des soucis, mais il faut savoir distinguer la politique et le peuple. C'est un peuple qui a un énorme potentiel, une jeunesse. Il y a beaucoup de choses à construire et c'est un pays récent, 10 ans, de tout reconstruire, les infrastructures, etc., etc. Mais il faut également se battre pour un meilleur avenir et je pense que le peuple ne doit pas perdre espoir. C'est important parce que c'est vrai qu'il y a énormément de soucis dans le pays aussi, mais moi-même j'espère le meilleur le meilleur. Mm-hmm. Et je pense que la diaspora peut donner une contribution au niveau du savoir aussi, pour reconstruire le pays et pour aider au développement de celui-ci. Mais il faudra aussi que la Serbie reconnaisse le Kosovo, parce que c'est une entrave à l'évolution du pays, à l'évolution économique.
Non, puis les rapports de bon voisinage, voilà. C'est important quoi qu'il en soit.
C'est primordial, mais c'est oui. Primordial. Et au final, je pense que tout le monde souhaite la paix. La cohabitation, la paix. Voilà.
Péninsule balkanique, peut-on dire que justement, parce qu'à part la Serbie, les autres pays voisins ont tous reconnu le Kosovo. Monténégro, bien sûr l'Albanie. Quel est le quatrième? Il y a la Serbie et puis la Macédoine.
Je suis pas sûr. Hein.
Là,
pardon. La Bosnie, je suis pas sûr.
La Bosnie, si, si, non,
ouais. Ils ont reconnu.
Et puis la Macédoine également. Justement, quels sont les rapports, si vous auriez envie de commenter en quelques mots, les rapports de voisinage avec les pays alentours? On peut dire qu'il y a une normalisation des rapports.
Ils sont bons. Entre la Croatie et le Monténégro, il n'y a pas de Macédoine.
Ouais. C'est vraiment c'est avec la Serbie vraiment que le.
Je nuancerai un peu les propos parce qu'il y a, il y a encore. Là, on a eu tout un débat avec la Macédoine du Nord. Il y a eu des conflits avec la Grèce. Albanie-Grèce aussi, il y a plein de choses. Il y a des conflits plus anciens qui ne sont pas encore totalement réglés. On a une histoire rocambolesque. C'est encore complexe, mais ça va mieux.
D'accord.
Après, on n'est pas des experts. Hein. Nous, on est des jeunes qui voyons les informations. C'est un point de vue qu'on expose.
Bien sûr. Et c'est tout l'intérêt également de la situation, c'est de dire le ressenti de personnes qui sont issues finalement de, qui sont les conséquences d'une certaine manière de tout ce qui est passé. Hein.
Ouais. Moi, j'espère juste que les nouvelles générations ne vont pas s'entêter dans les erreurs du passé et le nationalisme, et que ils vont savoir faire la part des choses et savoir ce qui est mieux pour eux et pour les Balkans en général.
Ouais. Alors, on va terminer avec une petite question, puis ensuite on rappellera juste la date, tout ça, le lieu. Concernant justement la diaspora, puisque ici on est à Genève, il y a une diaspora qui est effectivement assez active, donc dans laquelle vous pouvez puiser des ressources et puis puiser également un intérêt et des collaborations.
Oui,
très bien.
Oui, elle est active, il y a énormément d'associations. Il y a même des associations de danse. Je pense qu'il y a un besoin de trouver cet équilibre entre les origines. Et moi, j'avais un prof qui me disait, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, il y a une importance aussi par rapport à apprendre sur notre passé. Et ces associations contribuent justement à transmettre le savoir aux jeunes, etc. etc.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, Katrina et Deda, de ces interventions. On va le rappeler, c'est donc les 20 ans de la commémoration de la guerre du Kosovo que vous organisez au sein de l'association des étudiantes et des étudiants albanaises et albanais de Genève, l'AEAG. Les sites internet, voulez-vous les rappeler?
Alors c'est www.aege.ch et le groupe Facebook, la page officielle, c'est Association des étudiants albanais de Genève.
Et la page Instagram également,
AEAG.
AEAG, on trouve facilement.
AEAG, pardon.
En collaboration avec l'Université populaire albanaise, l'expo ouvre demain le 30 avril. Elle commence avec justement une table ronde qui aura lieu à
19h.
À 19h. Vous voulez rapidement redire le petit programme de demain?
MR 290.
Voilà, MR 290,
salle jaune.
Unimail, la salle jaune.
Avec comme panéliste Wely Leuenberger, Monique Ekman, Salika Bashi et finalement moi-même.
Très bien. Et l'exposition à court jusqu'au 4 mai, toujours à Unimail.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.